Jeunesse, période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. D'après le dictionnaire Larousse, une définition floue à l'instar de l'état d'esprit dans lequel peuvent se trouver les personnes concernées. Sont-elles pour autant les oubliées de la République? Si l'on en croit l'importance des budgets consacrés à l'éducation nationale et l'existence d'un ministère de la jeunesse, la réponse est non, car les enjeux sont grands pour celles et ceux qui nous gouvernent lorsqu'il est question d'établir des politiques de jeunesse. À quelques semaines de l'élection présidentielle, à l'heure où certains vont entrer dans l'isoloir pour la première fois, plusieurs questions se posent. Comment la mettre au travail? Comment la retenir en France? Comment canaliser ses revendications? Comment ne pas l'opposer au reste de la population? La jeunesse est un atout pour notre territoire, peut-on lire ou entendre ici et là. La jeunesse, symbole de dynamisme, d'innovation, d'optimisme. Est-ce toujours le cas en 2017? Et qu'en est-il de la situation de la jeunesse dans une ville comme Rennes, qui se décrit comme étudiante et éducatrice? Réponse tout de suite dans Chercheurs en ville. Bonjour et bienvenue dans Chercheurs en ville, émission du mois de mars avec notre invitée Patricia Loncle. Bonjour. Vous êtes sociologue au sein du laboratoire à Rennes, titulaire de la chaire de recherche sur la jeunesse. Vous serez avec nous pendant une heure, interrogé par mes camarades Xavier Debontride. Bonjour Xavier.
Bonjour Ronan, bonjour à tous et à toutes.
Et à vos côtés, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'Homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Ronan, bonjour à tous.
Xavier, c'est à vous.
Merci Ronan, bonjour Patricia Loncle. C'est un plaisir de vous retrouver à ce micro pour évoquer les très nombreuses facettes de cette question de la jeunesse, comme vient de le rappeler Ronan à l'instant. Nous avons beaucoup de questions à vous poser, singulièrement dans cette période où la politique s'intéresse à la jeunesse, où les jeunes s'intéressent ou pas aux enjeux politiques, où on fait toujours le lien entre les jeunes et le territoire. C'est devenu une espèce d'antienne régulièrement mobilisée pour décrire ce qui se passe dans nos villes et dans nos campagnes. Il y a beaucoup de sujets. Mais j'ai envie de commencer, si vous me le permettez, avec un sujet un petit peu périphérique et pourtant essentiel. Je m'explique, je pense à l'accueil des jeunes migrants à Rennes. Alors pourquoi je vous pose cette question, Patricia Loncle? Parce que vous avez été, avec d'autres, à l'origine, à l'initiative d'une association qui s'intitule très joliment D'ici ou d'ailleurs, et dont l'objet justement consiste à accueillir des jeunes migrants qui arrivent à Rennes. Ce sont souvent des jeunes qui sont à vos côtés dans cette dynamique. Expliquez-nous.
Alors, oui, c'est une association qui est très intéressante, qui a été créée officiellement en juillet. Donc, moi, j'étais pas membre fondateur, mais j'étais là dans les premiers bénévoles. C'est pas une association qui cible les jeunes en particulier, mais quand on regarde comment elle fonctionne, en fait, on voit que la très, très grande majorité des bénévoles, d'une part, et la très grande majorité des demandeurs d'asile, puisqu'elle s'adresse aux demandeurs d'asile, d'autre part, sont des jeunes.
C'est intéressant cette remarque-là, à la fois dans la mobilisation de ceux qui acceptent de consacrer du temps, notamment je crois pour donner des cours de français, ça se passe à la fac Pasteur, à l'hôtel à projet Pasteur. Il y a là donc des jeunes qui acceptent bénévolement de s'investir, mais ils s'adressent, j'allais dire, à leur père, à des jeunes aussi qui viennent de loin.
Oui, voilà, tout à fait. C'est très intéressant. Ils sont extrêmement investis. Alors, pas seulement d'ailleurs pour donner des cours de français, mais aussi pour accompagner les demandeurs d'asile dans leur démarche administrative, pour aussi proposer des activités de loisirs, des activités culturelles, etc.
Ils font du foot ensemble, notamment.
Absolument, du foot, des soirées, ils écoutent de la musique. Beaucoup de choses se passent en partenariat avec le TNB, avec les Champs Libres. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées. Et effectivement, ce sont des jeunes qui s'adressent à d'autres jeunes, principalement, pas exclusivement, mais principalement.
Alors, je me souviens d'une interview que vous aviez accordée il y a quelques années à la revue Place Publique, et vous nous disiez à l'époque que vous étiez foncièrement et fondamentalement optimiste à l'égard de la jeunesse. Ce que vous nous décrivez à l'instant tendrait à penser qu'on peut encore l'être, du coup.
Absolument. C'est vrai que quand on voit à quel point les jeunes jeunes bénévoles de l'association sont engagés, essentiellement des étudiants ou des jeunes en recherche d'emploi. On voit beaucoup de dynamisme, beaucoup de solidarité, une attention aux autres. Donc effectivement, ça peut rendre très optimiste.
Une question de Christian Lebart de la Maison des sciences de l'Homme en Bretagne.
Oui, est-ce que vous en savez un peu plus sur le profil de ces jeunes qui sont disposés à aider
Alors, comme je disais, ce sont essentiellement des jeunes étudiants ou des jeunes qui viennent de terminer leurs études et qui cherchent du travail, qui ont pour ce deuxième groupe pas mal de temps libre et qui peuvent donc se mobiliser fortement pour s'occuper, suivre, aider les demandeurs d'asile.
Ce sont des jeunes qui sont représentatifs de la jeunesse avec un grand J, ou est-ce que là on trouve une particularité dans cette forme d'engagement ?
Alors, est-ce qu'ils sont représentatifs ? Je ne sais pas, mais ils sont quand même nombreux parce qu'on a plus de 100 bénévoles dans l'association. Donc, je dirais comme ça qu'il doit y avoir entre 60 et 70 personnes de moins de 30 ans qui sont mobilisées. Donc, ce n'est pas rien quand même. Hein.
Et ça s'est fait assez spontanément et rapidement,
absolument.
Puisque c'était au printemps dernier.
Absolument. Quand on a commencé, c'était au mois de mai. On était 5 de part et d'autre, hein, du côté des bénévoles et du côté des demandeurs d'asile. Et en septembre, on devait être déjà une centaine.
Alors, pour vous, Patricia Loncle, qui êtes de métier et de profession observatrice de ces tendances de la jeunesse, c'est un formidable échantillonnage là, que vous avez, j'allais dire, sous la main et en tout cas en proximité directe. Vous allez travailler aussi avec le regard de sociologue pour la chaire jeunesse dont vous vous occupez ?
Absolument. Alors, ce n'était pas du tout le projet au départ. Hein. Pour moi, c'était vraiment de l'engagement bénévole. Mais quand j'ai réalisé au bout d'un moment qu'il y avait essentiellement des jeunes dans cette affaire-là, je me suis dit quand même, c'est un beau terrain d'observation. Donc effectivement, on en a fait une étude de cas ethnographique avec mon équipe et on travaille à la fois sur les enjeux, les raisons de l'engagement, du bénévolat, ce que ça apporte aussi en termes de parcours d'engagement pour les jeunes accompagnants, je dirais. Et puis aussi, ce que ça révèle, le parcours dans cette association, de la manière dont les jeunes demandeurs d'asile s'intègrent progressivement dans le territoire rennais.
Christian Lebart.
Alors évidemment, c'est un peu paradoxal parce que dans le même temps, on entend beaucoup de choses sur la diversité des jeunesses au pluriel et en particulier, on entend beaucoup de choses sur l'attraction Marine Le Pen ou enfin disons le fait que l'extrême droite ne serait plus tabou, y compris, ça fait un moment déjà, hein, y compris chez les jeunes et en particulier chez les jeunes salariés, par opposition à une jeunesse étudiante qui serait plutôt rétif quand même.
Alors, c'est vrai que là, dans cette étude de cas, dans cette association, on a quand même des jeunes qui sont largement ancrés à gauche. Donc, effectivement, ils sont, de ce point de vue-là, peut-être pas représentatifs de l'ensemble de la jeunesse française, mais plus de la jeunesse étudiante, je pense. Hein.
Peut-être aussi avec, du coup, un mécanisme de solidarité lié à des précarités partagées. C'est-à-dire,
En partie, oui. Ouais. En partie, oui. On peut observer ça. Mais en même temps, est-ce que, je ne sais pas s'il y a une commune mesure entre les sorts des uns et des autres, parce que les jeunes demandeurs d'asile qui arrivent dans le territoire, ils ont quand même tout quitté, sans aucun moyen de rentrer chez eux, jamais. Donc ils vivent quand même des situations de rupture qui sont à peine imaginables pour nous.
Bien sûr, mais je veux dire que souvent l'aide aux migrants, elle est le fait de gens, c'est pas péjoratif, mais plutôt nantis, c'est-à-dire des gens dont les arrières sont assurés et qui, dans une logique de solidarité, etc.
Ouais. C'est vrai qu'on voit pas ça là.
Ouais.
On voit pas ça là. Ouais.
Alors peut-être qu'une petite précision méthodologique s'impose à ce stade de notre émission, notamment pour nos auditeurs. Vous avez utilisé à l'instant, Patricia Loncle, plusieurs référentiels qui montrent que la jeunesse, vous ne vous contentez pas de la côtoyer, mais vous l'observez avec un vrai professionnalisme. C'est le travail de cette chaire jeunesse. Il est bon, je crois, de s'y arrêter quelques instants parce que, d'une part, c'est une singularité dans le paysage. Je crois que c'est la seule en France et donc une des premières en Europe. Est-ce que vous pouvez très simplement nous expliquer ce qu'elle est, comment elle a été créée et ce que vous y faites ?
Alors, la chaire, elle existe depuis 4 ans maintenant. On l'a créée un peu par hasard, je dirais, d'une certaine façon. L'idée, c'était de travailler avec le conseil régional, à l'époque avec Sylvie Robert, qui était élue à la jeunesse, pour établir un dialogue sur les questions de jeunesse. C'était un petit peu flou dans un premier temps. On a travaillé beaucoup à l'élaboration du projet. Et progressivement, on s'est dit on pourrait faire trois choses dans cette chaire. La première chose, ce serait de développer des projets de recherche académique d'une certaine envergure. La deuxième chose, de promouvoir de la formation initiale et continue, mais aussi à destination des professionnels, pourquoi pas des élus, sur les questions de jeunesse et de politique de jeunesse au sens large. Et puis, la troisième orientation, alors qui est peut-être plus originale pour une chaire, c'est de travailler en dialogue constant avec les acteurs de la jeunesse, qu'il s'agisse des décideurs, élus ou fonctionnaires, ou bien des associations de jeunesse, plutôt ce qu'on appelle l'éducation populaire, mais aussi avec les organisations de jeunes eux-mêmes. Donc voilà, ça fait 4 ans qu'on fait ça, et on essaye de... à la fois produire des connaissances, aller vers des sujets pas encore totalement explorés, et puis faire valoir dans les enseignements auprès de nos étudiants, parce qu'on a monté en même temps un master qui porte sur les questions de jeunesse. Et troisième chose, de vraiment mettre à disposition ce savoir scientifique pour les acteurs de terrain. C'est assez original sans doute, effectivement.
Christian ?
Oui, l'intérêt du dispositif, c'est évidemment un partenariat entre chercheurs et puis collectivités publiques. Et du coup, ça suscite de ma part la question suivante. Est-ce que ça veut dire que, du point de vue des pouvoirs publics, en gros la Rennes Métropole d'un côté puis la région Bretagne de l'autre, la jeunesse est un problème? C'est-à-dire, en quoi est-ce que la jeunesse intéresse les pouvoirs publics? Il y a une longue tradition en France de politique jeunesse qu'on peut discuter, mais enfin qui existe, en tout cas l'expression existe. Est-ce que la jeunesse est devenue une catégorie dangereuse? Est-ce qu'il y a de la méfiance? Est-ce qu'il y a des problèmes spécifiques à la jeunesse?
Alors, d'abord, pour parler de nos interlocuteurs publics, il n'y a pas que le Conseil régional, que Rennes Métropole. D'ailleurs, c'est Rennes, la ville de Rennes qui nous soutient. Il y a aussi la DRJSS, la Direction régionale de la cohésion sociale.
Ça, c'est côté État.
Voilà. Alors, au départ, c'était eux. Maintenant, c'est le ministère directement, Jeunesse et Sport. Et puis, on travaille aussi avec le Commissariat général à l'égalité des territoires. Donc voilà, on a... la communauté de communes de Quimper. Donc on a une variété d'interlocuteurs publics. Mais je pense pas qu'ils considèrent que la jeunesse soit, en tous les cas, pas une menace, ça c'est certain. Toujours une ressource, mais sans doute également un problème par rapport à l'emploi notamment, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, mais c'est pas seulement le fait de nos financeurs, on voit bien que les acteurs publics sont préoccupés beaucoup, et sans doute au premier chef, ça se discute, par les questions d'emploi des jeunes.
Un immense gâchis, beaucoup d'argent, peu ou pas de résultats, c'est pas vous qui parlez, c'est la Cour des comptes, Nicolas, qui dresse un bilan accablant des aides à l'emploi des jeunes, qui était pourtant une priorité de François Hollande.
Lorsque l'on regarde, comme vous le faites, la jeunesse sur un large territoire en partie régional, mais pas seulement, vous nous le direz sans doute dans quelques instants, est-ce qu'il est possible de faire apparaître des caractéristiques en fonction du lieu, justement, où cette jeunesse s'exprime et grandit? Est-ce qu'il y a, pour faire court, une jeunesse bretonne qui serait différente d'une jeunesse alsacienne ou de la région PACA?
Alors, pas plus que le reste de la population, je dirais. C'est quelque chose à examiner. Moi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de spécificités de la jeunesse bretonne par rapport à d'autres jeunesses. Ce qui marque peut-être un peu cette jeunesse-là, c'est quand on travaille à l'échelon de la région, effectivement, c'est est-ce qu'on habite en ville ou en zone rurale? Ça, c'est sans doute...
C'est un marqueur, ça.
Une ligne de partage quand même assez forte.
Et vous le constatez d'ailleurs dans vos propres étudiants, je crois, lorsque ils arrivent, notamment dans ce master dont vous avez la co-responsabilité. C'est assez frappant, vous discernez très vite, je crois, ces différents profils et ces différentes attitudes aussi par rapport à l'enseignement supérieur, par rapport au parcours.
Alors, pas vraiment dans le master, parce que c'est vrai qu'on a des... c'est un master 2, donc la plupart des étudiants qui arrivent là étaient déjà étudiants en ville avant, puisqu'ils étaient en master 1, donc pas nécessairement à Rennes, mais quand même, ils étaient déjà dans un environnement urbain pour leurs études. Après, c'est vrai que ça pose des difficultés pour tout ce qui est accès au logement. Puis alors, dans le master, on fait de l'alternance, donc on a des gens qui sont là pendant une semaine, et puis après, ils repartent 3 semaines en stage. Et là, ça peut poser des difficultés d'accès, hein, de logement, de cherté de la vie, hein, tout simplement.
Mmh. La précarité économique, elle se mesure aussi de ce point de vue-là. Christian Labarthe, une question.
Oui, pour revenir sur la question de la singularité, disons, de la jeunesse bretonne, j'ai souvenir de travaux peut-être un peu anciens qu'il faudra actualiser, mais en particulier l'initiative du CESR, CESR à l'époque, hein, qui donnait à voir une double singularité liée à l'excellence scolaire. Et au-delà de l'excellence, à l'investissement relativement fort des familles et des jeunes dans la scolarité à l'échelle de la Bretagne. Et puis, paradoxalement, le fameux taux de suicide des jeunes en Bretagne qui était également atypique. Et ce qui, à l'époque, évidemment, avait suscité beaucoup de débats sur comment on articule une donnée plutôt positive et une autre, évidemment, beaucoup moins. Qu'en est-il ? Est-ce que...
Non, c'est vrai, hein, sur les questions de lien à l'école, de rapport à l'école. Après, en termes de problèmes publics, en fait, ce qu'on voit, c'est que la question du décrochage scolaire, elle est aussi importante en Bretagne qu'ailleurs. Donc, peut-être même plus importante dans la mesure
où... Et plus récente, alors, peut-être.
Oui, dans la mesure où, effectivement, il y a une exigence de réussite qui pèse sans doute plus fort qu'ailleurs.
Il y a une forte pression sociale, quand même.
Oui, c'est sûr.
Et vous m'aviez dit, je me souviens aussi de cet échange qui remonte il y a déjà quelques années, vous m'aviez dit, en Bretagne, peut-être plus qu'ailleurs, c'est difficile d'être mauvais élève, tellement il y a une pression.
C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport, si on regarde la jeunesse bretonne par rapport au reste de la population bretonne, on observe des tendances de fond qui sont à peu près les mêmes. La jeunesse, elle ne se distingue pas vraiment très profondément du reste de la population bretonne. Donc c'est vrai que je dirais que les tendances, elles s'appliquent à l'ensemble de la population. Mais c'est vrai que c'est par cette tradition d'excellence scolaire, il y a une pression scolaire très forte qui pèse sur les jeunes bretons.
Et du coup, une corrélation possible peut-être entre ce mal-être qui peut s'exprimer jusqu'à des gestes définitifs, c'est lié, il y a eu des études là-dessus ?
Oui, ça a été démontré. Après, vous voyez bien, la population adulte bretonne, elle se suicide aussi beaucoup. Enfin, bon, voilà, c'est pas qu'un phénomène de jeunes, cette affaire-là, quoi.
Lorsque vous menez justement dans la durée, vous avez rappelé à l'instant que la chaire jeunesse a déjà 4 ans d'existence. Il y a donc une espèce de corpus qui est en train de se construire autour de ces questions-là. Est-ce qu'il y a déjà des lignes de force qui se dégagent ? Est-ce que vous pouvez tirer quelques enseignements de ces travaux qui n'avaient pas été réalisés auparavant, en tout cas pas sur cette échelle ?
Alors nous, on a... En fait, on a développé 2 grandes orientations. Maintenant, quand on fait un peu, on regarde dans le rétroviseur des 4 années, on se dit, bah, finalement, au départ, on s'était pas restreint en termes de thématiques. Et en fait, on se rend compte qu'on a travaillé sur 2 grandes choses. La première, c'est les liens entre la jeunesse, la participation et l'intégration dans les territoires, d'une part. Et puis, d'autre part, sur les questions d'accès aux droits, jeunesse comme... objet des politiques publiques. Donc voilà, nous on a travaillé beaucoup là-dessus et c'est sous ces angles-là qu'on a finalement le plus capitalisé.
Alors qu'est-ce qu'il en ressort ? Est-ce qu'il y a des enseignements ? Est-ce qu'il y a des démarches qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse parce qu'elles ont fait leurs preuves et d'autres qui manifestement n'ont pas abouti à grand-chose ?
Alors sur le deuxième volet, sur les questions d'accès aux droits, mais là encore ça se distingue pas vraiment par rapport au reste du territoire national, en tous les cas. C'est vraiment un écart entre les attentes des pouvoirs publics, ce qui est proposé, avec beaucoup de complexité, d'empilement de dispositifs, de faible visibilité, lisibilité des dispositifs. Et puis d'autre part, faire écho à ça, un accès des jeunes au droit à l'aide publique qui n'est pas si aisé que ça.
C'est ce que les spécialistes dont vous êtes appellent le fameux non-recours au droit, c'est ça.
Donc on a là-dessus beaucoup travaillé avec l'équipe de Philippe Varin de l'Odénor à Grenoble et effectivement on est dans, On est très attentif à cette question-là dans les recherches qu'on mène. En ce moment, notamment, une grosse recherche-action pays à jeunesse sur la transversalisation des questions de jeunesse, des politiques de jeunesse. Et là, on constate quand même dans les territoires une grande préoccupation par rapport au non-recours au droit et à l'aide publique des jeunes. Donc voilà, ça, c'est un premier axe de travail sur lequel on essaie de s'interroger beaucoup. Et puis, sur le volet participation, engagement, ancrage dans les territoires, etc. On essaye de faire prendre conscience aux acteurs publics qu'il ne faut pas seulement s'interroger sur les propositions qu'ils font de participation et d'engagement en direction de ces populations, mais aussi prendre en compte les pratiques culturelles des jeunes, leurs propres initiatives, tout ce qu'on appelle dans notre jargon la participation informelle des jeunes.
On touche au cœur des politiques publiques, ça va vous intéresser ça, Christian Lebarthe, j'en suis sûr.
Je reviens sur la question du non-recours au droit, qui est un objet vraiment passionnant. Alors, je ne connais rien, mais il y a deux hypothèses. Est-ce que c'est plutôt les jeunes qui sont, entre guillemets, un peu largués, qui par ailleurs accumulent un peu les indicateurs de marginalité, disons ça rapidement, et qui, pour toutes ces raisons-là, ont du mal à connaître leurs droits, à les faire valoir? Ou est-ce que c'est un effet de l'empilement des structures, de telle sorte qu'au fond, ce non-recours, on va le trouver chez toutes sortes de jeunes qui, comme tout à chacun, je dirais, sont un peu perdus dans le maquis et le millefeuille des offres d'action publique?
Alors, c'est ça, et c'est en même temps un peu plus compliqué. C'est-à-dire que les jeunes vraiment les plus exclus, qui sont passés par exemple par la protection de l'enfance, en fait, eux, ils connaissent très bien leurs droits. Parce qu'on ils sont familiers de l'aide sociale, donc voilà.
Ils parlent la langue, d'une certaine manière.
C'est ça. Ils identifient tout à fait bien les différentes aides, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils y ont recours, hein, mais en tous les cas, c'est pas un problème d'information. Après, effectivement, il y a un problème d'information, mais je pense qu'il touche un peu l'ensemble de la population des jeunes et les parents aussi, qui ont du mal à s'y retrouver, et les professionnels, parce que voilà, les dispositifs changent tout le temps, les règles d'attribution, les critères d'attribution changent tout le temps aussi, donc il y a un problème d'information, mais il y a aussi parfois une inadaptation de l'offre, c'est-à-dire qu'on va proposer des choses aux jeunes en termes d'aide publique qui ne vont pas leur convenir, et donc voilà, ils ne vont pas s'en saisir pour différentes raisons, ou bien aussi du refus de s'inscrire dans les dispositifs parce que ils peuvent être stigmatisants, parce que ils sont trop complexes, parce que ils sont ça suppose des mobilités géographiques impossibles à tenir. Donc là on revient à la question des jeunes ruraux. Enfin voilà, il y a des tas de raisons qui font que on peut refuser sciemment, tout en connaissant bien l'offre, d'y recourir.
Le RSA Jeune s'offre un démarrage en douceur. À la caisse d'allocation familiale de Tours, les files d'attente se recomposent. Mais à l'approche de la rentrée universitaire, ce sont les demandes d'aide au logement qui remportent le plus de succès.
Ça commence tout doucement. Tout doucement, comme le RSA lui-même il a commencé doucement. RSA Jeune, pareil. On a mis en place un petit guide pour leur un petit listing, en fait. Comme personne n'est trop au courant du mode de fonctionnement, donc ils repartent avec ce guide pour réunir les documents.
Vous aviez d'ailleurs fait publier une thèse sur ce sujet-là. Vous aviez choisi un titre qui était assez provocateur et qui correspond exactement à ce que vous êtes en train de nous décrire. L'action publique malgré les jeunes.
Ah oui, vous parlez de ma thèse.
Votre thèse, à vous.
Mais c'était pas sur le non-recours en fait, c'était sur le fait que les politiques qui s'adressent aux jeunes ne les impliquent pas dans la réflexion en amont, avant la prise de décision, et que même quand finalement elles sont déployées, développées dans les territoires, elles ont bien du mal à s'adresser au public directement.
Et du coup, on a le résultat que l'on évoquait à l'instant.
Oui, tout à fait.
Ça conduit à cela.
C'est ça, c'est ça.
Et donc sur le volet citoyenneté, alors ?
Alors là, en ce moment, on est... On est vraiment complètement là-dedans parce qu'on développe un projet européen sur la participation et l'engagement des jeunes dans 8 villes européennes. Donc pour le volet français, ça se passe à Rennes.
Et vous en êtes la référente,
c'est Oui, ça c'est ça. C'est ça. À la fois au niveau européen où on est co-coordinateur en fait, hein, de ce projet à l'école de la santé, à la chaire. Et puis au niveau du terrain français, enfin rennais quoi. Et donc là, on travaille beaucoup. Alors à la fois sur les les initiatives de participation qui sont proposées par les acteurs publics en direction des jeunes, ce qui est proposé aussi par les associations d'éducation populaire ou autres, notamment l'ESS, et puis ce qui est porté par les jeunes. Directement. Donc là, on travaille vraiment beaucoup sur leur forme d'expression, leurs attentes, les raisons de l'engagement, etc. Donc l'étude sur DCU, d'ailleurs, fait partie en fait de cette démarche-là. Mais il y a d'autres études de cas.
Alors, est-ce qu'il est évidemment trop tôt hein, pour donner les conclusions de cette vaste étude, enquête qui va se dérouler, j'imagine, sur un certain horizon de temps. Mais il y a quand même peut-être déjà des tendances qui apparaissent.
Alors... Une première chose, alors, et là ça ne concerne pas que Rennes, c'est la difficulté pour les acteurs publics de reconnaître les formes de participation portées par les jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire de ne pas avoir quelque part les bonnes grilles d'analyse pour repérer ce qui est la participation des jeunes.
Et qui n'est pas forcément celle instrumentalisée ou institutionnalisée
voilà.
par
Pas les forcément pouvoirs publics. Celle qu'ils voudraient. Hein, donc ça c'est une première chose, c'est quand même très intéressant et donc de voir qu'il y a de multiples formes de modes d'expression et de participation des jeunes à leur initiative hein, un peu bah voilà spontanée hein. Donc bien sûr, une place très grande aujourd'hui des réseaux sociaux, de tout ce qui est usage du numérique, disons. Donc ça traverse les 8 villes que l'on étudie. Mais pour Rennes, je dirais que ce qui est vraiment intéressant, c'est du fait de la grande importance de la population étudiante, un foisonnement d'initiatives qui est vraiment à l'œuvre et qui est là encore assez réjouissant. Quoi.
Christian Lebart faisait allusion à juste titre au début de cette émission sur l'engagement politique des jeunes. Est-ce que justement à Rennes, on n'a pas une corrélation entre militantisme notamment plutôt à gauche voire à l'ultra-gauche et forme d'engagement? Est-ce que je pense notamment à tout ce qui s'est passé un petit peu en périphérie, en marge des manifestations contre la loi travail au printemps dernier, les réunions sur la place de l'esplanade Charles de Gaulle nuit debout, est-ce qu'il en est sorti quelque chose?
Oui, alors bien sûr. Ça marque quand même beaucoup les formes d'engagement et ça crée un contexte hein, qui est effectivement favorable à la mobilisation. Donc on a effectivement pu travailler nous sur les conséquences de Nuit Debout hein, dans l'équipe. C'est Christine Guyonnet et Barbara Doulin qui ont travaillé là-dessus. Donc là elles ont observé hein, ce qui se passe depuis qu'il y a un peu moins d'attention médiatique à la question. Mais on a observé aussi des formes un peu moins évidentes de politisation. Donc, par exemple, on a travaillé sur une initiative qui s'appelle le Laboratoire Artistique Populaire, qui est portée par des jeunes qui ont monté une association se nommant Cœur Esquem, et qui propose de sensibiliser des jeunes peut-être moins éduqués à la citoyenneté par les parcours artistiques. Donc on voit que là, dans ce cadre-là, la politisation, c'est pas nécessairement l'objectif premier hein, de l'association, mais que à travers à la fois l'engagement des bénévoles et l'engagement des jeunes dans ce qu'on appelle le LAP, il y a une sensibilisation progressive à la chose publique, aux questions politiques, à l'occupation des espaces, etc. C'est extrêmement intéressant. Alors, c'est pas toujours vu comme de la politisation, mais de fait, quand on observe, quand on note les réflexions des jeunes qui participent, on voit qu'en fait, ça en est aussi.
Ça, on est aussi. On va reparler avec vous dans quelques instants, Patricia Loncle, de tous ces aspects de la mobilisation de la jeunesse. Mais pour l'instant, on fait une pause musicale avec un titre évidemment particulièrement bien choisi et de circonstance. Il s'agit du morceau We Are Young du groupe rennais Juveniles. We'll be right back.
gonna last long. You better cut your hair, leave it until tomorrow. We'll lose inside, but we've seen enough. You better come with us. This place has nothing to offer. We are young, we're just gonna mess it up. Let us play, let us play like David said. We are young, we're just gonna mess it up. Let us play, let us play like David said. Speak so loud. With dead eyes straight upon us, we are waiting for the end. So don't be shy, show your fight. You better come with us. This place has nothing to offer. We are young, we're just gonna mess it up. Let us play, let us play like David said. We are young, we're just gonna mess it up. Let us play, let us play like David said.
Les Rennais de Juveniles à l'instant avec We Are Young. Vous êtes toujours à l'écoute de Canal B dans l'émission Chercheurs en ville qui s'intéresse en ce mois de mars à la question de la jeunesse, ou plutôt des jeunesses au pluriel. Des jeunesses parfois anxieuses quant à leur avenir, parfois soumises à la pression de la réussite scolaire, notamment dans une région comme la Bretagne, mais des jeunes qui ont des raisons d'y croire car ils s'engagent encore, s'expriment encore sous des formes qui leur sont propres. L'engagement des jeunes, on en parlera d'ailleurs dans la deuxième partie de cette émission, durant laquelle nous reviendrons notamment sur la jeunesse mobilisée contre la loi travail l'an dernier à Rennes, et puis sur les différences de considération par les pouvoirs publics en fonction de notre sexe. La sociologue Patricia Loncle est notre invitée pendant encore 30 minutes. Elle répond aux questions de Xavier de Gontry et de Christian Lebar.
Je sais que nous n'avons pas encore exploré toutes les facettes de ce lien entre la jeunesse et l'engagement politique, et Christian Lebar brûle de vous poser des questions complémentaires. C'est à vous.
Oui, alors quand on pense à la jeunesse à l'échelle de la ville de Rennes, on a effectivement toute une série d'images en tête. On voit des jeunes très, très dynamiques, des associations étudiantes, des mouvements sociaux tout à fait vivaces, etc. Alors j'ai plusieurs questions autour de ça. D'abord, est-ce que cette jeunesse-là, très, très activiste, est-ce qu'elle ne masque pas, est-ce qu'il n'y a pas aussi une jeunesse invisible qui serait moins dotée en propriété sociale, moins étudiante, moins intégrée, et du coup que la première masquerait un petit peu. Est-ce que la chair vous permet de voir des choses sur cette jeunesse-là aussi?
Alors, je dirais qu'il y a deux types d'invisibilité, finalement. Il y a des jeunes qui sont très politisés, mais qui ne veulent rien avoir à faire avec les pouvoirs publics, et qui, d'une certaine façon, se rendent invisibles volontairement, ce qui les empêche pas de faire des actions tout à fait intéressantes. Là encore, par exemple, en direction des réfugiés, des migrants, etc. Et voilà, qui agissent, mais qui agissent... sans demander de soutien, mais même sans vouloir de soutien public. Et puis effectivement, il y a des jeunes qui ne pratiquent pas en tous les cas ces formes d'engagement, qui vont être moins diplômés, plus éloignés des rouages. Alors c'est une vraie difficulté en fait dans cette ville-là. Quand on discute avec les responsables publics, hein, on voit bien que ils proposent souvent une sorte de double image de la jeunesse rennaise, avec d'un côté les étudiants, de l'autre côté les jeunes des quartiers. Voilà. Mmh. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a plein de jeunes des quartiers qui sont étudiants, donc voilà.
C'est un petit peu commode, non, comme découpage, et surtout très artificiel.
En tous les cas, ça permet de se dire qu'il ne faut pas penser seulement aux jeunes étudiants quand on agit à Rennes. Donc ça, c'est intéressant. Et effectivement, on voit bien que... on bâtit cette opposition en se demandant vers qui il est le plus légitime d'agir finalement. Donc moi je ne vais pas forcément entrer dans ce débat-là, mais c'est vrai qu'il y a un problème d'accès à cette autre jeunesse, développement des actions, etc. De rester en dialogue avec elle, parce que c'est pas toujours simple quand les jeunes ne sont pas dans des collectifs soit préexistants, soit proposés par les pouvoirs publics. Ben, on a une population un peu diffuse qui se retrouve dans les espaces publics, ou pas du tout d'ailleurs, parce qu'il y a les garçons qui sont assez visibles dans les quartiers, mais il y a aussi les filles, on ne sait pas où elles sont, donc voilà, qui ne fréquentent pas beaucoup les structures d'accueil, qui ne sont pas beaucoup dans l'espace public. Donc effectivement, il y a cette population qui est peut-être plus difficile à toucher, même si voilà, il y a plein de structures de quartier qui font leur travail. Hein. Mais quand même, je pense que effectivement, vous avez raison, il y a une partie des jeunes qui ne sont pas du tout touchés par les pouvoirs publics, mais aussi parce qu'ils ne le souhaitent pas.
Mais ce que je veux dire... Les politiques jeunesse, bon, comme toutes les politiques publiques, hein, formulent des offres de services, de dispositifs, etc. Ce qui caractérise peut-être ces politiques-là et ce qui les singularise, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, les jeunes sont très inégalement en mesure de s'y intéresser, de s'en tenir informés, etc. Donc du coup, à travers, quand on rentre, je dirais, dans la jeunesse via l'action publique, on ne voit au fond que il y a le risque de ne voir que la minorité, de bons élèves au sens très, très large du terme, de gens qui acceptent de s'impliquer. Moi, j'ai eu une expérience il n'y a pas très longtemps avec l'université populaire et la mission locale, où effectivement, on voulait susciter une discussion un peu citoyenne autour des jeunes, alors dans la catégorie jeunes de quartier, pour reprendre la dichotomie précédente, et où effectivement on a réussi à identifier un petit groupe, mais qui était exemplaire de bonne volonté, mais qui masquait un petit peu probablement la réalité d'un groupe que ça n'intéresse pas, tout simplement.
C'est pas nécessairement que ça les intéresse pas. Ils peuvent aussi ne plus croire en la capacité des acteurs publics de résoudre leurs problèmes. Il y a aussi ça qui se joue.
Une sorte de démission, en quelque sorte, citoyenne, ou un refus des structures installées.
Enfin, démission, ça supposerait
une
déception, un désenchantement. Et...
Je pense qu'il y a de la conviction que ça ne sert à rien d'aller demander de l'aide, parce que de toute façon, on ne va pas résoudre le problème. Mais en même temps, ce qui se passe quand même dans le territoire, il faut quand même le souligner, c'est qu'il y a des vraies tentatives, des structures pour aller plus loin, pour ne pas s'en tenir là.
Concrètement, vous pensez à quoi, par exemple
la mission locale a un chargé de mission qui va dans les quartiers, qui s'adresse aux jeunes, jeunes qui essayent de leur expliquer tout l'intérêt qu'ils auraient à venir à la mission locale. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui l'aller vert. Et quand même, les structures pratiquent de plus en plus ça. Elles se contentent pas, les équipes de professionnels ne se contentent pas de rester dans leurs locaux.
Attendant que les jeunes viennent à
voilà,
eux.
Voilà, ouais. C'est quand même... les gens ne sont pas passifs. Hein, je pense qu'ils font quand même bien leur job. Ils se rendent compte que voilà, ils touchent pas tout le monde et ils essayent d'aller au-delà. Alors bien sûr, c'est vous voyez bien, fréquenter des structures, c'est pas obligatoire, hein, sauf à l'école, jusqu'à 16 ans. Mais pour le reste, ben ça se passe quand même sur la bonne volonté des gens. Donc, mais je pense qu'il y a une vraie volonté d'aller plus loin et c'est soutenu d'ailleurs par la mission jeunesse qui essaye de s'adresser à des formes moins structurées d'expression des jeunes, etc. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup plus que dans les autres villes qu'on observe là dans notre programme Party Space, une tentative de dépasser ce problème-là.
C'est le réseau social numéro 1 dans votre tranche d'âge, avec en fait Snapchat loin devant Facebook chez les ados. Ça s'inverse un peu au lycée, mais je vous propose là quelques chiffres. Plus de 100 millions d'utilisateurs par jour qui passent en moyenne une demi-heure sur l'appli, 9000 photos échangées chaque seconde et 8 milliards de vidéos vues par jour.
Vous avez évoqué tout à l'heure les nouvelles formes aussi d'usage et notamment induites par le numérique. Est-ce que on n'a pas là, avec ces outils-là, qui ne sont pas une fin en soi mais qui sont des outils, peut-être un nouveau langage à créer ou en tout cas une nouvelle manière de faire réseau avec les jeunes et avec la jeunesse?
Ça, c'est certain. Il y a des modalités d'expression qui sont permises par les réseaux sociaux, qui sont extrêmement intéressantes de ce point de vue-là, qui permettent à la fois de s'adresser à tous les jeunes français en n'étant pas limités à un territoire donné, qui permettent aux gens de rester en contact, d'avoir des projets communs. Nous, on travaille par exemple sur le magazine Maze, donc c'est Bénédicte Toulec au laboratoire qui travaille sur cette étude de cas. Bon, c'est très intéressant parce qu'on voit que là, on a des jeunes journalistes qui essayent de briser en fait tout un tas de murs grâce au numérique. Alors en permettant à des jeunes journalistes de les rejoindre, en n'étant pas figés dans le territoire rennais, en restant en contact avec tout le monde même quand ils sont plus là, et en tentant de démocratiser la profession. C'est extrêmement intéressant, effectivement.
Christian Labarthe.
Oui, alors du coup ça pose aussi une question peut-être assez fondamentale, qui est la question du rapport au territoire des jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, il y a des pratiques sociales autour du numérique qui tendent plutôt à la déterritorialisation. Bon, on a une certaine image de cette jeunesse-là, c'est-à-dire, voilà, qui communique à la planète entière. Et puis, à l'inverse, on va avoir des jeunes qu'on va appeler des jeunes des quartiers, c'est-à-dire qui sont assignés ou qui s'auto-assignent, peu importe, à résidence, et qu'on va trouver sur la Dell Kennedy tous les jours à la même heure. Donc, est-ce que dans les enquêtes que vous faites, il y a des choses un peu là-dessus, c'est-à-dire sur le désir de mobilité, sur l'attachement à l'identité urbaine, de quartier ou régionale. Voilà, comment est-ce que... Enfin, c'est très difficile de répondre en général, mais...
Moi, je pense que ce que nous montrent les enquêtes qu'on fait, c'est qu'il y a une superposition des deux. Dans les deux cas, c'est-à-dire que les jeunes qui ont une possibilité de mobilité s'en saisissent certes, mais en même temps restent attachés à leur territoire, au pluriel. C'est-à-dire que souvent, ils restent attachés, s'ils ne sont pas de Rennes, à leur territoire d'origine, enfin là où ils ont grandi, mais ils s'attachent aussi au territoire rennais avec, voilà, ils ne viennent pas là tout à fait par hasard. Quand on fait des enquêtes auprès des étudiants, ils expliquent bien qu'ils ont choisi de venir à Rennes parce que, voilà, c'est une université qui a une bonne réputation, c'est un territoire qui a une bonne réputation. Enfin, bon, voilà, ils viennent là sciemment, et en général, ils en sont plutôt contents. Enfin, en tous les cas, d'après ce qu'on voit dans les études, à la fois qualier et quantique, qu'on a pu faire, et que les jeunes des quartiers... Alors, c'est vrai qu'il y a un problème de mobilité dans les quartiers et dans les territoires ruraux. Des mobilités physiques et psychiques aussi, hein, des gens qui ont parfois peur de sortir, etc. Mais ça ne les empêche pas du tout d'être au fait de ce qui peut se passer ailleurs dans le monde. Donc, je pense que on a une superposition, en fait, des appartenances des jeunes.
Un point qui est souvent aussi abordé lorsque l'on observe cette catégorie, cette tranche d'âge, je ne sais pas comment la qualifier, par rapport à des comportements. Et là, vous voyez où je veux en venir, comportements addictifs, violences urbaines. Est-ce que ce sont des points d'entrée que vous avez explicitement étudiés et abordés? Est-ce qu'il ne faut pas non plus surinvestir peut-être ce prisme de lecture-là, qui est évidemment très connoté?
Alors nous, on ne l'a pas vraiment investi. Quand on travaille sur les questions de santé, on travaille sur plutôt les, alors d'accord, les comportements, mais aussi tout ce qui induit des comportements qui peuvent être délétères pour les conditions de santé, donc aussi les conditions sociales, l'isolement, le stress, etc. On fait très attention à ne pas reproduire la stigmatisation qui peut peser sur cette catégorie de population. Donc on essaye, quand on est amené à travailler sur ces questions-là, à toujours rappeler qu'il y a aussi du collectif, du contexte, de la condition sociale, etc. Et qu'on ne peut pas se limiter dans les analyses des comportements des jeunes à « ils boivent le jeudi soir ».
On voit quand même, enfin, si on met un peu en perspective l'histoire de la jeunesse à Rennes sur 20-30 ans, on voit quand même du côté des pouvoirs publics, et pas seulement, certaines peurs de la jeunesse. Les politiques jeunesse ont aussi cette finalité de surveillance,
d'encadrement, de canalisation,
de régulation. Alors, ça peut peut-être pas se dire aussi crûment que ça, mais une des choses qu'on sait bien dans l'histoire des sciences sociales, c'est que les sciences sociales ont toujours pris comme objet en priorité les groupes sociaux qui étaient considérés comme déviants, comme à risque. C'est le fameux classe laborieuse, classe dangereuse. Et les sciences sociales ont mis beaucoup de temps à s'intéresser aux groupes qui ne sont pas problématiques, la bourgeoisie ou les chercheurs eux-mêmes, qui forcément incarnent la normalité. Donc ouais. De ce point de vue-là, y a quand même un horizon d'inquiétude dans le...
Oui et non. Enfin, oui, il y a des questions de maintien de la paix sociale, c'est évident. On ne peut pas dire le contraire. Ça vient avec l'intervention publique en direction des jeunes depuis toujours. Donc bon, voilà. Après, il y a des moments... où c'est plus ou moins fort. Et je ne pense pas qu'on puisse résumer l'action publique locale à ça. Donc c'est un volet parmi d'autres, quoi. Et jusqu'à... alors, il y a 10 ans, c'était très fort, c'était le discours de l'État, il y avait un besoin de canalisation autour des pratiques festives, c'était porté par les représentants de l'État, et la municipalité s'est beaucoup opposée à cette lecture-là. Les événements de l'année dernière, c'est un peu plus compliqué de ce point de vue-là. On a tous vu ici qu'il y a eu quand même des affrontements très très forts entre la jeunesse et les autorités publiques au sens large, et enfin la jeunesse étudiante, et ça a été assez compliqué, voilà. Mais je pense qu'on peut pas se dire que on est ici à Rennes dans avant tout la question du maintien de la paix sociale. C'est beaucoup plus large. Et quand on compare avec d'autres villes ou d'autres systèmes nationaux, par exemple les Anglais qui travaillent avec nous dans Party Space, eux ils disent le point d'entrée de la politique de jeunesse aujourd'hui en Angleterre, c'est la répression, c'est la jeunesse menace. J'ai l'impression qu'on n'est pas quand même là-dedans en France aujourd'hui, quoi.
Pas d'affrontement cette fois-ci. Les plus mobiles se retranchent dans les bois. Quelques mètres plus loin, au pied du stade Rennais, nouvelle alerte, les gendarmes se redéploient.
On arrête les tirs !
Ils viennent de tirer des grenades lacrymogènes pour disperser la foule, mais un petit groupe tente à nouveau de les déborder. Ils sont immédiatement pris en chasse par les gendarmes et canalisés.
Un mot quand même, si vous me le permettez, pour rester un instant sur les événements du printemps 2016 et cette radicalité ou cette radicalisation qu'on a tous observée. Est-ce que vous avez justement en tant que sociologue des clés de lecture ou des pourquoi à Rennes? Alors lorsqu'on en parle avec les pouvoirs publics, ils vous disent oui, ça s'est mal passé dans trois endroits, Paris, Nantes et Rennes. Pourquoi là?
Déjà, il y a beaucoup d'étudiants. Enfin, je veux dire, c'est quand même quasiment un tiers de la population. Donc, bon, mécaniquement...
Il y a une surreprésentation de la jeunesse dans
ben oui, c'est quand
dans
même
la ville.
Oui, voilà, c'est quand même une des villes les plus étudiantes de France. Donc, bon, forcément, quand ils se mobilisent...
Ça se voit.
Voilà, on ne peut pas les ignorer. Hein. Donc, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a eu sans doute de l'incompréhension des deux côtés. Il y avait, je pense, à la fois des enjeux nationaux qui se répercutaient ici, et puis peut-être aussi des enjeux locaux qui ont conduit à une sorte d'escalade dans les affrontements. Donc, oui, ça a été très compliqué.
Ça va laisser des traces, justement, dans ce dialogue dont nous parlions à l'instant, entre les pouvoirs publics locaux notamment, et puis cette jeunesse. On va en tirer des enseignements. Vers quoi va-t-on aller?
Je ne sais pas.
C'est une forme d'inquiétude?
Non, je pense qu'on a affaire quand même à des gens qui sont plutôt de bonne volonté du côté des pouvoirs publics. Donc je pense que ça devrait se dépasser.
On va revenir sur un point peut-être prospectif et comparatif. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez dans les quelques minutes qui nous séparent de la fin de cette émission, justement, les comparaisons internationales auxquelles vous vous livrez. Est-ce qu'il y a des singularités dont on pourrait peut-être s'inspirer dans la manière de renouveler le dialogue avec la jeunesse, de ce que vous voyez, alors je ne sais pas, en Europe du Nord ou ailleurs? Est-ce qu'il y a des choses qui semblent bien fonctionner et qu'on pourrait peut-être expérimenter?
Alors nous, on est vraiment au niveau local. Hein. On est dans l'analyse de ce qui se passe en matière de participation des jeunes au local. Donc déjà, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que dans les 8 villes, il y a des expériences de participation qui sont portées par les jeunes, qui sont très proches des... de ce qu'on peut identifier comme étant les problèmes d'aujourd'hui en matière de mouvement de population, d'expression culturelle, etc. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que Christian Lebar suggérait tout à l'heure, il n'y a pas toujours une équivalence entre les difficultés et les réponses publiques. On voit bien que, pour revenir aux questions de migrants et de réfugiés, même si c'est une vraie question, qu'elle est de très grande importance, les autorités publiques, en tous les cas en France, ont bien du mal à s'en saisir. Donc, bon, voilà. Juste pour dire qu'il n'y a pas forcément une équivalence entre le problème et la réponse publique. Hein. Et là, sur cette question-là, on le voit bien. Mais par contre, les mobilisations de jeunes, elles vont vers ces questions-là. Et dans les 8 pays que l'on observe, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives autour justement de la prise en charge du suivi des réfugiés. Donc voilà. Donc je dirais que pour une fois, c'est pas que les pays du Nord qui sont exemplaires, puisque les jeunes des 8 villes sont exemplaires. Alors après, évidemment, en termes de politique publique, comme d'habitude, les pays scandinaves se distinguent, sont les bons élèves. Et là, on a Göteborg en Suède, et effectivement, la politique publique de jeunesse, elle est extrêmement intéressante, extrêmement respectueuse des jeunes, pratique beaucoup plus facilement la participation, leur donne plus de pouvoir, etc.
Est-ce que c'est pas non plus lié, mais là ça nous entraînerait trop loin, au système éducatif aussi qui prévaut dans ces pays-là et qui finalement façonne la jeunesse dans une certaine dimension?
Alors, oui, tout à fait. C'est, bien sûr, c'est complètement lié, mais c'est pas la seule raison. Enfin, on voit bien qu'en termes d'approche de la jeunesse, il y a une ouverture à la fois à la diversité des jeunes et puis une vraie prise en considération du transfert de pouvoir. En fait, hein, on va leur confier des responsabilités, on ne va pas parler à leur place, etc. Donc c'est quand même...
une forme de reconnaissance et de légitimité.
Ouais.
Christian Lebart.
Et alors par rapport à ça, est-ce que la variable politique peut jouer, par exemple, de façon infranationale? C'est-à-dire, quand on compare les villes en France, est-ce que les dispositifs jeunesse, Rennes étant plutôt... plutôt ouverte sur les questions de débat avec les jeunes. Est-ce qu'on a des éléments sur des villes qui auraient d'autres profils?
Vous voulez dire gauche-droite?
Oui, par exemple.
Non. Moi, je trouve que non, ça ne joue pas,
ça joue pas.
Fondamentalement. Bon, il y a des endroits où la politique de jeunesse est plus ambitieuse que d'autres, mais il y a aussi... certes, Rennes est plutôt de gauche, mais il y a aussi plein de villes de droite qui font des choses très intéressantes en matière de jeunesse. Donc, non, ça marche pas très bien au niveau local. je veux dire, au niveau national, on voit des orientations quand même, avec plus d'intérêt pour le collectif quand, voilà, les...
Oui, mais qui renvoie des traditions, des providences.
Exactement. Mais au niveau local, je pense que c'est un peu plus compliqué.
Une dernière question, nous sommes au mois de mars, c'est traditionnellement le mois où l'on s'intéresse, on devrait y intéresser évidemment toute l'année, aux droits des femmes. Vous avez très rapidement tout à l'heure évoqué cette différence entre les jeunes garçons et les jeunes filles, les jeunes femmes. Il y a donc là une entrée intéressante, genrée presque sur ces questions-là. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce qu'on peut s'attarder quelques instants
oui.
là-dessus ?
Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il y a une surreprésentation des jeunes garçons ou hommes dans les structures qui proposent de l'offre de loisirs, etc. Et que souvent, les professionnels cherchent à faire venir les jeunes filles, mais ont du mal. Il y a beaucoup d'interrogations sur la mixité aujourd'hui, de comment faire pour promouvoir une mixité dans les activités qui sont proposées. Et puis du côté des politiques publiques, ce qu'on voit, c'est que c'est vrai que comme les jeunes hommes ont eu tendance à causer plus de troubles en France, la réponse publique, elle va plus vers eux. Et quand il y a eu des chiffres, je ne suis pas très bonne là-dessus, mais d'économistes pour montrer l'argent qui est consacré d'une part aux jeunes garçons et d'autre part aux jeunes filles.
C'est il n'y a pas photo.
Voilà, c'est très clair. On s'adresse plus aux garçons. Mais concrètement...
Ce qui suppose quand même de genrer chacune des cibles de politique publique, c'est quand même un peu...
Ouais, mais enfin,
ça
quand
doit
même.
Être un peu à la louche quand même.
Certes, mais bon, il y a quand même beaucoup plus de garçons qui font du foot que de filles.
Oui.
Enfin, je veux dire, c'est comme ça. C'est
ouais.
Les équipements s'adressent de sport, ouais. etc. S'adressent quand même plus aux garçons qu'aux filles, d'une manière générale. Mais les professionnels, ils travaillent là-dessus. Ça les embête beaucoup, en fait, parce qu'ils constatent que quand ils ont plus de filles, ça se passe mieux dans les équipements. Donc, ils aimeraient bien plus les faire venir, mais c'est compliqué. Et les filles, elles ont tendance soit à rester chez elles, soit à partir des quartiers. En fait, elles vont ailleurs pour leurs loisirs. Donc, effectivement, il y a un déséquilibre autour de ça. Et puis, dans les pratiques d'engagement, ce qu'on voit, c'est que les filles sont présentes, mais on a du mal à les faire accéder aux responsabilités dans les associations, etc. Alors ça, c'est un autre problème, mais qui est là, qui est réel aussi.
Ce qui est passionnant en vous écoutant, Patricia Loncle, c'est qu'on voit que cette question de jeunesse, loin d'être enfermée dans une catégorie particulière, très hermétique et tout à fait étanche avec le reste de la société, au contraire, est en percolation, est en dialogue avec l'ensemble des politiques publiques. Le sujet est loin d'être clos. Je sais que vous avez encore beaucoup à faire pour travailler sur ces questions. Peut-être un dernier rendez-vous à signaler à nos auditeurs, une publication, des rencontres sur ces thèmes ?
Alors oui, on va sortir un ouvrage collectif dans quelques semaines aux presses universitaires de Rennes sur la gouvernance des trajectoires éducatives en Europe. Donc un ouvrage qui est le résultat d'une autre recherche européenne qui concernait aussi 8 pays européens sur le poids des systèmes éducatifs sur les trajectoires des adolescents.
Eh bien, on sera attentif à guetter ça chez nos libraires préférés. C'est aux éditions des presses universitaires de Rennes. Patricia Loncle, merci d'avoir répondu à nos questions dans Chercheurs en ville. C'est déjà la fin de cette émission. Très bonne suite de programme sur Canal B.